Cet épisode est sponsorisé par le professeur Kumba.
Puissant sorcier.
Médium héréditaire.
Paiement après résultat.
Reconnu d'utilité cosmique. Membre de l'ordre des marabouts terriens.
Initié au maniement des plantes.
Et des vers à pied. Très connu dans la grande forêt sacrée de Rambouillet.
Et dans tout le 94.
6 épisodes d'expérience en Europe.
En Afrique.
À Las Vegas.
Et même sur d'autres planètes.
Spécialiste diplômé de toutes les réflexions désespérées,
voire des réflexions existentielles,
expert en magie blanche,
magie noire,
magie grise
et magie rose.
Vous voulez vous faire aimer ?
Retour immédiat au foyer de la personne aimée.
Vous voulez avoir du succès ?
On vous reconnaîtra dans la rue, même la nuit.
Vous voulez de l'argent ?
Gain immédiat en euros ou en bitcoins.
Vous voulez réussir vos examens ou vos sauces aigre-douce ?
Contactez-nous sur alienetlesgarcons@gmail.com ou sur iTunes.
Travail relativement sérieux,
probablement efficace
et rapide dans la mesure du possible.
Vous ne le regretterez pas.
Alien et les garçons, épisode 6. Bienvenue dans Toi, monde meilleur.
Bienvenue à bord d'Alien et les garçons. Bonjour tout le monde.
Salut Thomas.
Hello.
Salut Florian, salut Vic. Comment ça va les petits copains?
Ça va bien. Très très bien.
Vous avez l'air en grande forme pour une fois.
Eh ben il fait beau, on est heureux. On est au château.
Surtout, moi je suis plus en lendemain de suite du tout.
Là t'es bien?
Ah je suis bien, c'est demain le lendemain de suite.
C'est demain le lendemain de suite. Oui. Ouais, l'apéro est bien entamé, bien attaqué là. La bouteille est vide d'ailleurs, on n'a plus rien à boire.
C'est déjà la deuxième, je vais aller chercher la troisième.
On va enchaîner. Nous voilà rendus à l'épisode 6 les amis, avec la thématique magie, qui nous a été donc proposée par un auditeur en live pendant l'épisode 5. Cet auditeur s'appelle... Vic.
C'est exact, j'assume complètement. Voilà.
C'est le dictateur.
Le dictateur.
Il faut dire que vous m'aviez cherché.
Oui.
Il faut dire qu'on t'a cherché. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, déjà, épisode shaming, vous êtes des tocards. Pas avoir écouté. Mais non, en vrai, Vic s'est décrit comme un magicien. On le décrivait, nous, plutôt comme un barde. Il a dit, ok, je vais vous proposer que je suis un magicien. Je vais faire de la magie, vous verrez. Et, thématique magie, prochain épisode. Et, prochain épisode, c'est aujourd'hui. Thématique magie.
C'est exact. Et donc, je vais tenir ma parole et vous faire de la magie. Peut-être avant, on va se présenter, mais après, vous allez voir ce que vous allez voir.
On va se présenter, on va présenter le podcast. Et après, tu vas nous faire de la magie, si tu le souhaites. Je sens que ça va être un échec cuisant. Mais on va essayer de faire de la magie en podcast, les gars.
Il dit ça juste, Didascali, il dit ça parce que je suis allé un petit peu m'entraîner à mon tour juste avant d'enregistrer là, alors qu'ils étaient en train d'installer un petit peu le matériel. Je suis effectivement pas totalement serein, mais... Mais mes ancêtres magiciens ont confiance en moi et je pense réussir.
Moi, je suis très confiant.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, j'ai un trou de mémoire et peut-être que Florian peut m'aider. C'est quoi déjà Alien et les garçons ?
Alien et les garçons, c'est un thème, trois chroniqueurs qui inventent des mondes et des univers fous et bigarrés sur ce thème. Ils s'en parlent jamais, à part autour du micro et autour d'une bonne bouteille de vin.
À l'épisode d'avant, tu avais dit des univers chamarrés, et là, c'est des univers peut-être même bigarrés.
Fun et bigarré, j'ai dit exactement.
Ouais.
Ok,
ouais.
Mais tu expliques bien mieux quand tu es ivre plutôt qu'en lendemain de
cuite. Oui, c'est vrai, c'est
surprenant. Oui. Mais je t'invite à être ivre constamment.
Plutôt. Oui, bah, j'essaye, je tente.
Donc, à partir de maintenant, tu seras ivre tout le temps, bravo.
C'est super.
tu seras ivre. C'est super, du coup, le podcast, elle a vraiment intéressant. On va l'écouter, enfin, on va le faire, du coup.
On va le faire avant de l'écouter. Après, on va le mixer. Ouais. Et puis après, peut-être, on écoutera.
Tu casses la magie du podcast.
Ouais. En parlant de magie,
En parlant de magie, c'est quoi ton monde ?
Mon monde, je m'appelle Florian.
Attendez, tu m'as un peu volé mon travail. Mais okay. Donc, c'est quoi ton monde, Florian ? De quoi il va parler ?
Mon monde, ça va être une introduction à la magie.
Bon, on va te mettre en premier alors. Okay, puisque c'est une introduction.
Oui, c'est plutôt logique.
Ouais. Ça me va.
Vous auriez dû mettre en dernier.
Donc, tu t'appelles Florian, ton monde sera une introduction à la magie.
Et je peux dire quelque chose ?
Vas-y, coupe-moi.
Tu avais prévu des portraits chinois dans ceux d'avant ?
Oui, je vais faire un portrait chinois.
Allez.
Vous êtes prêts ?
Oh là là.
Florian, Yves, je voudrais que tu te définisses avec un super-héros totem.
Un super-héros totem.
Tu as une seconde. Sinon, tu es éliminé. J'éteins ta torche.
Je dirais Aquaman.
Alors tu dis ça,
il est nul.
Il est super nul. Mais je fais pas dans l'esbrouf. Je suis pas là à choisir le plus impressionnant.
C'est quoi son super pouvoir? C'est d'appeler des poissons.
Majoritairement.
C'est ça, je crois.
C'est quoi son super pouvoir?
En gros, il fait des ultrasons et ça attire des poissons, je crois.
Oui, et puis il est quand même sacrément balèze et tout. Et puis c'est un triton. C'est un homme poisson. avant tout.
Yves le Triton, on va t'appeler. Félicitations.
Et non, je ne cherche pas le plus impressionnant ou celui qui a les meilleurs super-pouvoirs. On réserve ça pour un autre podcast. Mais en tout cas, c'est celui qui colle le plus à ma personnalité.
Ouais.
Tous ceux autour de la table sauront à quel point j'apprécie l'élément...
L'odeur de poisson.
Non, l'élément de l'eau...
L'eau aquatique.
Que je ne prouve pas à travers ce podcast, malgré
c'est
tout.
Que,
mais...
C'est que tu te baignes souvent. Oui. Souvent dans l'eau.
Tout à fait.
Dans les baignoires, notamment, et les baignouches aussi.
Les baignoires, les baignouches, les mers, les lacs, les rivières.
Toujours
les
à l'eau. Et c'est vrai que t'es Aquaman, c'est quoi ? Je valide.
Ah, oui, d'accord.
Je valide. Vic.
Oui.
Alors, tu vas pas tout de suite nous parler de ton super-héros. Tu vas d'abord. Comment tu t'appelles déjà ?
Vic.
Ok. Et quel est ton monde ? De quoi il parle ?
C'est l'histoire d'un type qui fait des trucs que vous allez découvrir. Et,
oui.
ça va, et vous allez faire non, c'est
vrai
qui fait ça.
Mais comme nous tous alors.
non, mais ça va être très surprenant. En gros, c'est l'histoire d'un type.
Ok,
voilà.
C'est bien. Ça, je pense que les gens ont vraiment envie d'écouter maintenant. Et quel est ton super-héros totem ?
Mon super-héros totem, c'est le chinois de Heroes. Vous voyez,
c'est mon préféré.
Heroes.
Je ne l'ai pas regardé à l'époque. J'étais trop petit, j'ai 8 ans moi.
Globalement, il remonte dans le temps.
À quoi ?
Non,
ah bon ?
Il remonte pas dans le temps, il arrête le temps, pardon.
Non mais ouais.
Non, il arrête le temps.
Dans la suite, bon.
Ah, j'ai pas vu la suite.
Pas spoiler mais.
Ah bah si, c'est fait. Bravo.
Non, alors du coup, c'est
un
maîtrise
chinois qui arrête le temps.
Attends, c'est quoi tu dis chinois ? Il fait comme ça avec sa tête.
Il plisse les yeux.
C'est juste parce qu'il plisse la tête.
Il est pas chinois, il est américain d'origine.
Oui, asiatique. Il est d'origine asiatique.
Soyons inclusifs.
Oui, c'était pas du tout, pas du tout progressiste, ce que t'as dit.
Non. Et puis vraiment, il fait cette tête là.
Ouais. Donc,
le temps s'arrête autour de lui. Et ce qui fait que
ça, c'est un gros kiff. Quand même.
Voilà. Et alors, Florian, arrête-moi. Le temps s'arrête ou le temps défile très lentement ? Je crois que le temps défile très lentement.
Je crois que ouais. Enfin, il s'arrête.
Voilà. Bon, bref. Du coup, si le temps défile très lentement. Ça veut dire que les gens à vitesse normale, pour lui, il les voit lentement, non ?
Ouais.
Et donc, en fait, c'est comme s'il était très rapide. Donc, techniquement, ce mec-là, c'est un petit peu comme Flash. Parce que nous, on le voit toujours aller super vite. Mais voilà. Donc, en gros, mon super-héros, c'est tous les héros qui sont capables de ralentir les temps ou les héros qui sont capables d'aller très, très vite, qui voient à peu près la même chose.
Ok. Vous avez été très profond sur vos super-héros.
Oui, alors, et d'ailleurs, toi, ton nom ?
Moi, mon monde, ça sera...
Ton nom ?
Mon nom ?
Ben oui, parce que si ça se trouve, il y a des gens qui commencent par cet épisode.
Moi, je m'appelle Pedro de la Puerta de las Fuentes.
Enchanté, Pedro.
Et mon monde... j'ai tapé dans le...
Ah, ça recommence.
Ça recommence comme à l'épisode 2.
On était professionnels et puis on l'est plus.
Merde. Mais en fait, je ne suis pas très bien calé là. Moi, mon monde, ça sera un monde d'heroic fantasy. Je ne vous en dis pas plus. Ça va être vraiment rigolo, je pense.
Et ton héros.
Et mon super-héros, c'est... Moi, je ne connais pas très bien les super-héros. Alors, je vais vous dire le Dr Manhattan de...
Ah, c'est trop facile.
Pourquoi ? Parce que j'aime le côté bleu. Mm-hmm. J'aime le côté chauve. Mm-hmm. J'aime le côté capable de
temps,
non mais c'est Dieu.
Mais oui,
c'est Dieu.
C'est pour ça que c'est un petit peu
quoi ?
C'est un petit peu facile et c'est un petit peu prétentieux.
T'es jaloux ?
Un peu.
T'es jaloux Aquaman ?
T'es jaloux Aquaman ? Moi je suis Docteur Manhattan, OK ?
J'aurais pu faire pire, j'aurais pu être la Green Lantern.
Rien que son nom déjà c'est un nom de peuple irlandais donc je te dis c'est pourri quand même. Moi je fais semblant de comprendre mais je connais pas très bien les super-héros en vrai, mais j'ai passé un bon moment à discuter de ça avec vous. On va commencer directement sur nos chroniques.
Avant les chroniques.
Ah, le tour de magie.
J'aimerais vous faire mon tour de magie.
Ah,
alors, yo.
Peut-être, c'est pas très radiophonique et je m'en excuse d'avance.
On va le décrire.
Je m'en excuse auprès des auditeurs.
Alors,
mais
Vic tient
Thomas,
dans ses mains.
Voilà,
alors, il s'est fait une French manucure pour l'occasion. Et il tient dans ses mains une sorte de boîte toute oblongue, on peut dire oblongue, en plastique gris, contenant 6 dés.
Alors, c'est une boîte
des
qui produit effectivement 6 dés. Bon, elle n'est pas totalement grise,
mais
c'est
pas grave. Nous fait des,
je te laisse vérifier les dés.
Il nous fait des petits gestes à la Sylvain Mirouf.
Écoutez, ASMR, on a des dés dans les mains. Là. On
vérifie, c'est des vrais dés.
C'est des vrais dés. Voilà. Je peux le jeter pour voir ?
Ouais.
Ouais, c'est un vrai dé, j'ai
alors,
fait 5.
Alors, jette-les. Jette-les.
Je les jette.
Jette-les là.
Ah.
Vas-y. Rapproche-les de moi, parce qu'il faut que je puisse les toucher pour les sentir.
Ah, c'est pour le rapport à la magie ?
Hein ?
Comme ça ?
Voilà. Je vais t'inviter à choisir un dé.
Je te le dis ?
Oui, choisis.
Je choisis le 1.
Tu choisis le 1 ?
Oui.
Tu choisis le 1 pour quelle raison ?
Parce que je suis 1.
Hein ?
Je suis 1. Mon grand-père est 1, H-U-N. Je viens d'Asie centrale.
Ah, c'est
et
ça.
Et j'envahis toute l'Europe.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Bon, alors tu choisis le 1.
Je crois pas que les 1 viennent d'Asie centrale.
Alors,
si, ils viennent d'Asie centrale. Attila ?
Donc, j'ai remis ces dés. Les autres dés, ceux que tu n'as pas choisis dans la boîte. D'accord ?
Ouais, donc il y a 5 dés dans la boîte et mon dé avec le 1 est posé sur la table.
Voilà, je referme la boîte.
Oui.
Pour faire un transfert d'énergie, je vais le mettre là.
Donc tu mets le D.
En fait, je vais le prendre dans la main à côté, parce que si ça se trouve, ça va. Ça va
être donc tu as dans la main le 1 et dans l'autre main
la boîte.
La boîte que tu vas.
Et la boîte.
Tu vas faire un choc entre les deux.
Voilà, je vais faire un choc. Est-ce que tu es prêt?
Vas-y.
D'abord, je vais secouer la boîte. Je vais la secouer comme ça. Après, je vais faire un choc et après, je vais ouvrir la boîte.
Oh, ça,
et ça, ça a marché. Mais je ne comprends pas. Attendez, attendez, attendez.
J'adore les tours de magie ratés. Voilà, c'est bien mieux.
Attendez.
C'est bien mieux.
Attendez. Faut que je me reconcentre. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Et là, hop là,
oh,
ça
n'a
pas marché. Fait chier, moi, je suis barde.
Oh, c'est
oh non, mais
quel
putain.
Échec.
Oh là là.
Quel échec.
Alors, c'est drôle que ça ne fonctionne pas. Ils sont très contents que ça ne marche pas. Mais donc, je m'entraînerai.
Ouais. Pour expliquer aux auditeurs,
je m'entraînerai et je devrais un vrai magicien.
Et que tu le fasses la prochaine
pour
fois.
Pour expliquer aux auditeurs, donc les dés étaient supposés, j'imagine, se mettre sur le... tous devenir sur la face 1.
Non,
c'est
non,
ça
non, non, faire non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou un
ouais, parce que là, c'est pas le cas. Là, c'était que c'était n'importe quoi. Mais les
essais
sont changés à chaque fois.
Si on passe au premier
monde. Tu veux pas qu'on épilogue un peu sur ça? Très bien. On va passer au premier monde avec Florian, l'homme triton, qui va nous parler
Aquaman,
dit l'homme triton, le triton de Saint-Ouen, qui va nous parler d'un monde quoi?
Une introduction à la magie.
Ah, il va nous faire une petite introduction à la magie.
Ça tombe bien, c'est l'épisode magie.
Formidable.
Atomes et baguettes magiques.
Nous sommes actuellement sur une planète lambda et à une époque quelconque. Il est environ 14h30 heure locale. L'étoile du système dans laquelle nous sommes est déjà haute dans le ciel. Mais tout ça, pour une fois, on s'en fout un peu. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. Ce qui nous intéresse vraiment, par contre, c'est qu'aujourd'hui, il fait froid. Et c'est parce qu'il fait froid que M, 87, 42, 36, 65, 65, 65, 14, 18, 123, 2, 51, appelons-le M51 pour plus de simplicité, se réveille tout doucement. Lui, ainsi que des milliers d'individus qui composent son cercle proche. Sa famille, pourrait-on dire. Une fois sorti de son sommeil, M51 commence alors à réveiller l'ensemble de sa famille, en commençant par l'individu le plus proche de lui. Après quoi, une fois réveillé, celui-ci en réveille un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça peut paraître long comme ça, quand sa famille est grande de plusieurs milliers de membres, mais en fait, tout ça se passe en à peine une microseconde. Lorsque tout le monde est réveillé, et sans lâcher un seul mot, ils se mettent tous au travail pour augmenter la température alentour. Et ça tombe bien, parce que c'est à ce moment-là qu'une boule parfaitement lisse, 50 à 60 fois plus grande que M51, pointe le bout de son nez. Ni une ni deux, les milliers de M quelque chose s'agitent pour pousser cette boule d'abord à droite, puis à gauche, et rebelote. Encore une fois, le temps de dire tout ça, on a l'impression que ça prend énormément de temps. Mais ils sont si nombreux et si rapides que cela se passe presque instantanément. On peut tout de même se demander pourquoi s'acharner à bouger ce gros truc sans avoir vraiment de direction ni de but, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début, aujourd'hui il fait froid. Et comme chaque petit physicien en herbe le sait, le mouvement c'est la chaleur. Je ne sais pas si vous avez déjà compris, mais pour cette chronique, je vais vous faire visiter le monde de l'infiniment petit, et vous parler d'un peuple qu'on appelle les Magus. Les Magus sont des êtres que je ne pourrais pas décrire, et pour cause, personne ne les a jamais vus. Même avec le microscope le plus puissant du monde, vous ne verrez pas l'ombre d'un magus. Vous voyez un atome ? Plus petit, il y a le nucléon. Et encore plus petit, il y a le quark. Je n'irai pas plus loin car en dessous de tout ça, on rentrerait dans des théories de physique quantique et ça risquerait de faire chier nos si nombreux auditeurs. Eh bien les magus, ce sont des tout petits êtres, si petits qu'ils se situent entre le nucléon et le quark. Vous comprendrez qu'à partir de là, il ne sert à rien de vous décrire physiquement les magus. Ça reviendrait à décrire une molécule d'hydrogène. Ça n'a pas de jambes, ça n'a pas de bras, ni de bouche, que dalle. Mais ça vit, et ça pense, et ça bouge. Pour le bien-être de l'histoire, et même si on n'a jamais vu ni entendu un magus, on va aussi dire que ça parle d'une manière ou d'une autre. En tout cas, que ça communique. De par leur petite taille, les magus ont un pouvoir que peu d'êtres dans l'univers connu ont. Ils peuvent interagir directement avec la matière au niveau atomique. En unissant leurs forces, ils peuvent déplacer, découper, voire même transformer des molécules à leur guise, et ce de manière quasi instantanée. Sans que nous ne le sachions, les magus sont à l'origine de nombreuses modifications moléculaires qui ont permis la vie dans l'univers. Un beau matin, alors que l'un d'entre eux avait soif, M51 et ses potes ont notamment assemblé, avec leur absence de papate, deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène. Comme vous l'a si bien appris Monsieur Boulard, votre prof de chimie en 5e B, ça vous donne quoi les gars?
De l'eau.
Eh oui, tout à fait.
Aquaman.
Et comme ça, les magus n'eurent jamais plus soif. ainsi que le reste des animaux de l'univers. De la même façon, avec un peu de travail et un peu de temps, les magus sont capables d'assembler des atomes de silice avec plus ou moins d'autres composés chimiques, afin de se créer des habitations et de magnifiques structures en forme de cristaux. Sur Terre, on appellerait ça des géodes, par exemple, mais pour les magus, ce sont des villes, voire même des continents entiers. Et de cette façon, avec pas mal d'expérimentation, les magus ont pu modeler et transformer leur environnement pour combler peu à peu tous leurs besoins, et par la même occasion, créer un univers propice à la vie pour toutes les espèces et toutes les races qui auraient les mêmes besoins qu'eux. Une relation symbiotique, qui aurait pu s'arrêter là tant la différence de taille entre les magus et le reste de l'univers, est énorme. Un jour, alors qu'une bande de magus s'attelle à construire un amphithéâtre géant, fait de carbone et de silice, quelque chose d'inattendu arriva. Quelque chose que n'avaient jamais vécu les magus, malgré plusieurs millions d'années d'existence. Une onde sonore. Mais pas n'importe laquelle. Des ondes, ils en ont déjà connu, ils les voient passer, se tordre, rebondir. Mais celle-là, contrairement à toutes les autres, les traversait et faisait vibrer leur petit cerveau exactement de la même façon que quand ils communiquent entre eux. De manière très rudimentaire, comme si c'était un bébé magus qui parlait, mais tout de même. Et cette onde leur donnait des instructions très précises. Sans trop comprendre pourquoi, et avec beaucoup de curiosité, les magus se mettent ainsi à déplacer des dizaines de milliers d'atomes en même temps, à enlever un électron par-ci, le rajouter par-là, ranger les charges négatives d'un côté et les positives d'un autre. Plus ils rangent et trient les atomes entre eux, et plus autour d'eux l'onde mystérieuse devient puissante. L'air se met tout à coup à vibrer, au début pas beaucoup, mais ensuite de plus en plus fort. Les deux tas d'atomes commencent à bouger d'eux-mêmes à une fréquence extrêmement élevée. Mais les magus ne s'arrêtent pas là. Ils sont comme possédés, manipulés par cette voix inconnue qui leur parle. Lorsque tout à coup, les milliards d'atomes se déplacent instantanément les uns vers les autres, comme attirés magnétiquement. Ce déplacement soudain provoque trois choses. Une chaleur extrême de près de 30 000 degrés, soit l'équivalent de 5 fois la température du soleil, une onde de choc extrêmement puissante et rapide, et l'arrêt soudain de la mystérieuse onde sonore. Un calme pesant se fait ensuite sentir. Les magus s'arrêtent net et glissent dans les airs en tournoyant lentement comme des milliers d'astronautes à la dérive. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces petits êtres s'agitent autant? Il est temps de quitter le monde de l'infiniment petit. Là, debout dans une clairière, un homme avec une barbe fournie qui commence à grisonner, un chapeau bleu-gris, rapiécé et pointu. Il est bouche bée, les yeux écarquillés. Les oiseaux se remettent à chanter après plusieurs minutes de silence. Au pied de l'homme, un livre ouvert qui laisse deviner une langue étrangère, écrite en pattes de mouche. Et en face de lui, une souche complètement calcinée. Cela fait des mois que le jeune Merlin tentait de décrypter l'ancien grimoire qui lui avait été légué par son père, qu'il l'avait reçu de son père, qui lui-même l'avait reçu d'un animal fantastique au corps de chèvre et à la tête de lion, d'après les légendes. Et cette fois-ci, c'était la bonne. Il avait réussi à provoquer un éclair entre lui et sa cible. Il pensait que ce phénomène n'était dû qu'à sa seule et unique force mentale et aux incantations du grimoire. Jamais il ne saura qu'un petit peuple, capable de manipuler et transformer les atomes, était à l'origine de cet éclair. Et jamais il ne saura que ces grimoires n'étaient qu'une sorte de Google Translate d'humain à Magus, qu'il avait mal interprété les signes, et que l'éclair qui était sorti de sa baguette de sureau n'était qu'une coïncidence, une erreur de traduction. Il appela ça la magie.
Salagadou, la menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi-bobidi-bou.
Oh yeah.
Le mec nous a lâché Merlin l'Enchanteur direct en frontal.
Ouais. Et donc, c'est l'introduction. Hein.
C'est un petit peu, on a parlé de ça une fois un épisode, je sais plus lequel, comme les mitochondries des Jedi. C'est pas les mitochondries, mais vous vous rappelez?
Ouais, c'est les mitochondries, Magus, même combat en vrai. Quoi.
Non, mais c'est ça. C'est un peu, tu expliques.
Tu expliques la physique.
Tu expliques la physique de la
magie.
Je suis
même allé plus loin. J'avais d'autres, comme d'habitude, d'autres textes que j'ai enlevés au fur et à mesure pour que ce soit un peu plus court, un peu plus punchy. Mais en vrai, des petits êtres qui modifient les atomes, rendent la vie possible.
Punchy.
Qui rendent la vie possible, en vrai, ça fait aussi un peu penser à Dieu. Tu vois, ça explique un peu Dieu aussi.
Ok, mec et méta.
Je ne suis pas Monsieur Manhattan, mais quand
pas,
même.
Je ne sais pas, docteur déjà. Monsieur Manhattan, c'est Benoît Poulvord. mais ouais, Dieu, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça voudrait dire que. Bon, si c'était vrai, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des choses improbables qui arriveraient tout le temps.
Exactement. Mais en même temps, la vie sur Terre, c'est un peu magique, tu vois, quoi. Certains phénomènes physiques, naturels, etc., c'est un peu magique.
Bien sûr.
Il y a des choses qu'on n'explique pas encore, tu vois.
Ah, c'est drôle que tu dises.
Comme quoi
c'est un peu magique, des choses qu'on n'explique pas. Mais je vais pas. Mais parce que je suis parti un peu de cette idée-là aussi.
Par exemple, la création de l'univers, c'est quelque chose de magique qu'on n'explique pas, par exemple.
Oui, en effet. Et tu penses que
les magies. En fait, tout ce qu'on n'explique pas est magique.
En soi, oui.
En soi, oui.
C'est juste un terme. En fait, comment dire. La magie, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Et donc, du coup, on a placé ce mot-là sur les phénomènes qu'on appelle la magie. Mais
on
en
a aussi
vrai,
placé le mot Dieu, c'est vrai.
Mais exactement. Bah, bien sûr, c'en est. Exactement. Mais j'aimerais
mais
pas.
En vrai, c'est peut-être des petits êtres.
Faisons pas un débat comme ça.
Faisons pas un débat comme ça. Parce que je crois qu'on empiète sur son truc.
Tu empiètes sur mon territoire.
Oh, merde, c'est vrai, ça ressemble à ta chronique.
Non, mais complètement.
Je vais changer de sujet.
Pas sa chronique, mais juste le fait de se dire que c'est de l'inexplicable.
C'est intéressant. C'est la première fois dans Alien et les garçons que deux chroniques sont voisines.
Non, non, alors.
Se télescope.
Mais elles se télescopent pas. Mais enfin, bien que. Du coup, j'aimerais bien. À la fin de ma chronique, on reparlera des magus.
Des magus.
Ouais.
Ah, donc, genre,
c'est pour ça que j'ai voulu
squeeze le débat de Florian.
Non, on le squeeze pas. Mais je
désolé,
dis juste
Florian.
On le squeeze pas. Je dis juste qu'on en reparlera.
D'accord.
Mais intéressant. C'était cool. C'est marrant, je trouve, Florian.
Ouais.
Ta manière de raconter les histoires, que ce soit une histoire d'amour comme dans le dernier ou comme dans beaucoup, ou là c'en est pas une, mais t'as une manière de raconter
réconfortante.
Ouais,
j'ai l'impression d'être avec ma mère.
Ouais, ou pas, non, pas
ma
mère,
mais j'ai l'impression d'être.
Maman,
je m'installe avec elle.
Mais, oh non. Appelle-moi papa.
Non, mais non, t'as une manière de raconter, c'est doux. Là, mais là, t'étais plus deep que l'histoire de.
Parce que la mort.
C'était Atto et Pilla, mais
Atto et Pilla. Ouais.
Et ok, donc moi j'aime bien quand même. Attendez, on peut quand même reparler un peu des magus un petit peu.
Reparlons-en.
Moi, ce que ça me plaisait beaucoup l'idée de. C'est-à-dire que là, il pourrait être partout autour de nous et il ferait des trucs.
Ils sont partout autour de
en
nous.
En gros, ça serait une force physique. Ce serait la force physique. Ah, ce serait le moteur premier, le fameux moteur premier.
C'est ça. Comme substance substantielle de la physique et chimie.
Ouais. Donc, moderne. La substance, au sens philosophique du terme, serait donc les magus.
Exactement.
Donc là, on a perdu tous nos auditeurs.
T'es un peu dans c'était la matière noire.
Aristote. Ah non, mais c'était Aristote, là.
Encore une fois, c'est vraiment toutes ces choses qu'on n'explique pas, on place des mots dessus, mais en vrai, ce sont les magus qui. Ça ne remplace pas la physique et la chimie, mais il y a certains trucs.
Et donc,
qui s'explique par les magus.
Ouais. Tu veux dire que quand David Copperfield a fait disparaître la Statue de la Liberté, c'était eux.
Non, c'était une plateforme qui tournait sur elle-même.
Non, c'était pas une plateforme, c'était des miroirs.
Non, je sais plus, je crois que c'était une plateforme, je crois que ça tournait sur elle-même.
Il a pas mis la Tour Eiffel sur une plateforme.
Non, j'étais pas sur la Tour Eiffel, j'étais sur
la Statue de la Liberté. Dans tous les cas, Vic, t'as aucune autorité en termes de tour de magie à partir de maintenant, c'est fini.
Non, mais c'est parce que le truc des dés, c'était nouveau, mais sinon la Tour Eiffel disparaît, ça c'est.
Non, mais la Statue de la Liberté, effectivement, l'audience était sur une scène qui tournait très lentement. Et en fait, du coup, le rideau qui camouflait la Statue de la Liberté ne le camouflait qu'au tout début. Et une fois que la scène tournait tranquillement, au final, quand il a enlevé le rideau, il était juste dans la mauvaise direction. C'est tout. Je vous promets
que c'est ça. En fait, ils étaient dans un train et quand on a la fin du tour, ils étaient à Washington.
Je vous promets que c'est ça. La vérité à propos de ce tour, c'est une plateforme qui tourne sur elle-même, c'est tout. Il regardait juste dans la mauvaise direction. Donc forcément,
il y a forcément un mec qui s'est tourné.
Ou certainement, oui, mais pas la caméra qui
il a été abattu directement par un
silencieux.
En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Si jamais ce n'est pas vrai, n'hésitez pas à commenter en mettant 5 étoiles.
David Copperfield, si tu nous écoutes.
Ouais. David. Ok.
Ok, les magus. Non, mais les magus, peuple. Et pourquoi les magus?
Bah, parce que magie, magus, j'ai pas été très loin, tu vois.
Très bien.
Donc, okay. Donc du coup, on débat pas plus sur ça et on y revient, c'est ça?
Juste pour info,
ouais.
Petite anecdote, comme ça vous le saurez, il y a le numéro du Père Noël aussi dans le nom complet de M51.
Le Père Noël, il n'existe pas.
Non, c'est marrant. Ah oui, dans le numéro complet de M51, à un moment, tu dis, tu sais pas 118-218, mais tu dis...
14-18.
14-18, voilà, c'est ça. Je me suis dit, ah...
Et c'est petit, 42. Vous vous rappelez pas de quand vous regardiez la télé et que vous étiez petit, de 42, 36, 65, 65...
Si, c'est vrai.
C'est ça.
Ah, c'était le numéro du Père Noël.
Ouais. 36, 42, 36, 65, 65, 65.
Mais les chroniques d'Alien et Garçon sont quand même pleines de petits... comment on appelle ça, des easter eggs à croquer pour les fans amateurs de pop.
Chacun voit midi à sa porte, tu peux dire que c'est des easter eggs, d'autres diront que c'est n'importe quoi. Mais après,
je suis désolé, dans une chronique, retrouver le numéro du Père Noël de notre enfance, moi je trouve ça sympa.
C'est vrai, on aime beaucoup le Père Noël. Et d'ailleurs...
Et pour info, la musique, c'était de Thomas Newman.
Le fameux...
C'était Aphex Twin.
Il y avait Aphex Twin et il y avait Thomas Newman aussi qui a fait les, la BO de, 00, enfin de tous les 007, Modern, Skyfall, tout ça et tout, Passengers, mais aussi le monde de Dory.
Je connais pas le monde de, c'est quoi Dory?
C'est la suite du monde
c'est
de Nemo.
C'est la copine de Nemo qui perd la mémoire.
Et qui a fait American Beauty aussi.
Tu te rappelles pas de Dory? C'est un petit poisson bleu qui perd la
poisson,
mémoire.
C'est un Nemo.
Elle perd la mémoire au bout de deux secondes.
Oui, ça me revient.
Et à un moment, j'ai cru reconnaître c'est aussi la musique. Dans tes musiques, j'ai cru reconnaître un éclair de je sais plus quel compositeur.
Non, et un swoosh aussi de Sound Effects. Sound Effects Design sur YouTube.
Niveau blind test, je suis quand même balèze.
Enfin, blind test de nature. Bravo les amis. Et du coup, les Magus seront de retour tout à l'heure.
Il y aura l'occasion d'en reparler.
Formidable. Et en attendant, on va se consacrer à,
c'est malin, tout ça
à la meilleure chronique.
L'Heroic Fantasy.
Évidemment, c'est la même.
Darkest Edge of Camelot.
Pour Midgar, cria une Valkyrie lorsque les forces du royaume d'Albion s'écrasèrent contre notre ligne de défense. Il devait être 500, peut-être plus, à descendre de la montagne de Minargent. Nous n'étions que 200. Il faut croire que nous avions perdu la faveur des dieux. Ce raid se présentait pourtant sous les meilleurs auspices. Nous avions libéré l'un de nos forts occupés depuis des semaines, et galvanisés par notre succès, nous avions décidé de nous enfoncer plus profondément dans la zone frontalière, jusque sur les terres d'Hibernia. Quelle malchance que de tomber sur des troupes du royaume d'Albion, précisément sur les terres du royaume d'Hibernia. Jorund, un Tan de la guilde de l'Hiver Éternel, commandait cette expédition. Selon lui, les forces d'Albion avaient eu vent de la faiblesse des défenses d'Hibernia, et ils avaient eu exactement la même idée que nous, à savoir, nous aventurer sur le territoire contrôlé par Hibernia pour tenter d'y prendre un fort. Le combat n'était pas équilibré, mais Jorund avait refusé la retraite. Enfin stratège, il avait décidé de tenir la position pour tenter de les intimider. L'ennemi n'était pas là pour nous, et avec un peu de chance, en leur tenant tête, ils choisiront d'emprunter un autre chemin. Jorund était connu dans tout Midgar. Grâce à ses talents de stratège et son charisme, il commandait de nombreux raids en zone frontalière. Il siégeait également au conseil de la Grande Alliance du Nord. Nous avions tous une confiance aveugle en lui. La magie crépitait partout autour de nous. Nos prêtres invoquaient les pouvoirs des dieux nordiques, tandis que les thaumaturges et les sorciers d'Albion faisaient appel à une magie profane que nous abhorrions plus que tout. La ligne de front tenait bon, nos plus féroces guerriers au premier rang. Trolls, nains, humains, valkyns, kobolds, c'était face à toute la cohésion du royaume de Midgar que devaient lutter nos assaillants. En tant que guérisseur, je me tenais le plus loin possible de l'ennemi, tout en restant à une distance raisonnable de la première ligne pour rester à portée avec ma magie. Je savais très bien que nous ne pourrions plus tenir longtemps. Je savais aussi que les sujets du royaume d'Albion étaient suffisamment cruels pour essayer de nous massacrer, même au risque de s'affaiblir avant un siège. Deux archers avaloniens positionnés en hauteur me harcelaient et tentaient de m'empêcher de formuler mes sorts. Les premières lignes étaient sur le point de céder. L'ennemi commençait à nous flanquer et nos forces se fragmentaient en plusieurs petits groupes. Il ne fallut plus que quelques secondes avant que ne retentisse dans l'air le cor signalant un repli immédiat. Nous étions donc de retour sur les terres gelées de Midgar. Le raid s'était dispersé et je me trouvais à l'orée de Mirkwood avec les membres de ma guilde. Valda, la Skald, avait entrepris de jouer quelques notes d'une vieille chanson célébrant les amis disparus et le temps qui passe. Le soleil était en train de se coucher et l'ombre des pierres levées s'était allongée. Tout le monde se tut. Ces temps-ci, la mélancolie nous gagnait facilement. Dans ma guilde, nous n'étions plus qu'huit. Les autres avaient tout simplement disparu. Non pas au cours du raid, mais les uns après les autres, mois après mois, année après année. Ce mal que certains appelaient prophétie de l'achèvement touchait les trois royaumes, Midgar, Albion et Hibernia. Bien entendu, j'étais de ceux qui réfutaient ces croyances stupides. Oui, c'est vrai, les royaumes se vidaient de leur population pour une raison inconnue. Mais je ne pouvais pas croire une seule seconde à ces prédictions insensées qui n'annonçaient rien de moins que la fin du monde. Quoi qu'il en soit, nous avions perdu de nombreux amis et je dois bien avouer que Midgar n'était plus vraiment Midgar à présent. Autour de nous, cette région, terre des trolls, aurait dû être traversée de nombreux voyageurs, marchands ambulants, guerriers en route pour la zone frontalière. Aujourd'hui, elle était vide. Tout était devenu vide. Et moi le premier. Le lendemain, je me rendais à Fort Atla pour faire quelques emplettes avant le prochain raid qui devait tomber dans la soirée. À l'entrée de l'échoppe du teinturier, je rencontrais un homme étrange. Il était assis sur le sol dans la poussière. Il était en train de teindre une armure matelassée de grande qualité avec des couleurs criardes, rose, jaune, bleu ciel. Ce qu'il faisait à son armure, cette pièce de maître qui avait dû lui coûter une fortune, était un sacrilège. Son regard croisa le mien et il y lut probablement mon incompréhension. « C'est la fin du monde, mon pote, faut bien s'amuser. » Encore un de ces illuminés. Je pressais le pas pour quitter Fort Atla au plus vite et rejoindre le raid. En arrivant, je vis une masse impressionnante de guerriers de Midgar prêts à en découdre. Dans ce royaume vidé de sa population, c'est bon de se mêler à une foule compacte, me dis-je. Je finis par retrouver les membres de ma guilde assis sur les escaliers des remparts. Ils étaient tous là, sauf Valda, que je ne voyais pas. Un terrible pressentiment me tordit les entrailles. C'est les jambes tremblantes que je m'approchais de mes amis. Sans échanger un mot, je compris à leur mine que Valda avait disparu à son tour. Notre Skald, celle qui nous a accompagnés dans tant de batailles, celle qui nous a apaisés tant de fois avec ses chants et ses histoires. Elle était mon amie, elle était notre amie à tous, et maintenant elle était partie. Remplacée pour toujours par un silence assourdissant qui pèsera lourd sur nos épaules. Une rumeur enflait dans nos troupes et me sortit de ma torpeur. Je me tournai pour faire face à la foule et je ne vis que des visages inquiets. Le raid aurait dû commencer d'une minute à l'autre, mais à en croire ce qu'il se disait ici, Jorund, le grand âne, celui qui devait nous guider ce soir encore, n'était toujours pas sur place. Ce soir, je vis mon monde s'effondrer. Je vis des guerriers fuir avant même le début du raid. J'en vis d'autres hurler de colère ou pleurer. Je vis des armes abandonnées dans la neige. Je marchais sans but à travers nos troupes démoralisées, perdues, orphelines. Le raid n'aurait plus lieu, pas sans Jorund. Jorund qui rejoignait la longue liste des disparus. Il était le nom de Tro, celui que personne ne pouvait supporter de voir partir. Un vieil homme attira mon attention. Ses breloques et son attirail usé trahissaient son appartenance au clergé de Bogdar. Il était à genoux dans la neige, le visage noyé de larmes. Il parlait les yeux dans le vide, mais c'est à nous tous, sujets du royaume de Midgar, qu'il s'adressait. Voici ce qu'il dit. Pourquoi aller encore et encore se battre contre un ennemi qui disparaîtra tout comme nous? Vous ne comprenez donc pas ce qu'il se passe? Albion, Hibernia, Midgar, peu importe. Personne n'a gagné la guerre. C'est la guerre elle-même qui a perdu. C'est la fin des temps, la fin de tout. Le raid n'eut pas lieu. Jorun ne revint jamais. Les jours s'écoulèrent, plus mornes les uns que les autres. Jusqu'au jour où... je reçus une étrange missive.
Bonjour Simon. Après 25 ans d'aventure, les serveurs de votre jeu vidéo immersif préféré vont fermer faute de fréquentation suffisante. Jamais un jeu vidéo massivement multijoueur n'avait atteint une telle longévité. Nous vous remercions pour votre fidélité sans faille au cours de ces longues années. La fermeture sera effective dans 24 heures et définitive. À bientôt dans un nouveau jeu de rôle immersif.
Un jeu vidéo immersif ? Simon ? Est-ce que c'est mon nom, Simon ? Les souvenirs commençaient à remonter, comme une vie antérieure. Un monde complètement différent, loin de la magie et de la guerre. Loin aussi de mes amis du royaume. Vous ne pouvez pas le croire. Est-ce que c'est ça la prophétie de l'achèvement ? Ça ne pouvait pas être réel. Alors je suis parti. J'ai traversé ce Midgar vide que je considérais jusqu'alors comme mon pays. J'ai erré sur les falaises de Nalithen. J'ai marché sur les terres brûlées de Muspelheim. J'ai traversé une dernière fois le portail pour Aegir. Je suis descendu me perdre dans les fosses de Skona. J'ai traversé la luxuriance de Mirkwood, là où j'ai vu le jour, là où mon père a vu le jour, et là où le père de mon père a vu le jour. J'ai escaladé les glaciers de Romaric. J'ai parcouru les marchés désertés de Mularn, de Fort Atla, de Galpen. Et enfin, épuisé par cette marche, j'ai battu une dernière fois le pavé de ma belle capitale, Jordem, la magnifique du Nord. Là où j'ai passé tant de nuits avec les miens, avec mes amis de la guilde, mes frères de combat. Je me suis souvenu des moments passés et combien j'aimais cette terre et ses habitants. Et puis finalement, comme prévu, les serveurs ont été éteints. Soudain, les trois royaumes n'étaient plus.
En fait, t'as un gros loser dans ta chambre.
C'est ça.
Devant ton ordinateur.
Pas vraiment devant ton ordinateur parce que c'est immersif, on imagine qu'ils sont peut-être dans des espèces de cubes ou quoi, machin
ouais,
et tout.
Alors qu'en fait, le mec, ça, tu sais comment il est ? Tu as pensé à comment il était, en fait, le vrai héros ?
Techniquement, on ne connaît pas la race alien dans laquelle je parle.
Oui, non, mais je veux dire, j'aime bien dans l'idée de par opposition au fait que ce soit un gros guerrier de Midgar, j'aime bien l'idée que ce soit tout l'opposé d'un gros guerrier.
25 ans dans un cube en train de...
Lui, t'es pas un gros guerrier.
Et je pense que t'as une longue barbe de viking, mais ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là.
Et ouais, et t'es de tout petites jambes et des tout petits bras.
Ouais, t'as plus de muscles, t'as plus rien et tout. Quoi.
Putain, ils arrêtent le truc. Et puis, bah, il va être ouf.
C'est, je pense que quand ça t'arrive, c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire le truc. Il continue à parler de, même après avoir appris le truc, il continue de parler de ce monde-là comme si c'était le sien. Et je pense que le mec, après, en fait, il est étranger à son propre monde. Et
ouais, bien sûr, 25
ans. Ça peut être assez dark. Ça peut être assez dark.
Moi, ça m'a rendu super nostalgique par rapport à toutes mes expériences de jeu. Ah, quand j'étais gamin,
c'était le but du jeu.
J'ai dû quitter et tout.
C'était le but du jeu.
Ça m'a fait mal.
Parce que vous avez remarqué peut-être que tous les noms qui sont utilisés proviennent d'un jeu vidéo qui a vraiment existé et qui existe encore un petit peu d'ailleurs, qui s'appelle Dark Age of Camelot.
Tout à fait.
Qui est un MMORPG avant World of Warcraft, et tous les noms Hibernia, Midgar, Albion, toutes les races et tout, bon. C'est vraiment tout pris
Midgar
de...
à Albion, Hibernia, je sais pas, Midgar, non. Albion, ils l'avaient repris eux-mêmes, mais
Hibernia aussi.
Hibernia
aussi.
Midgar de manière générale, c'est surtout
Midgar
c'est la Scandinavie, Albion c'est l'Angleterre, et Hibernia c'est l'Irlande. En fait.
Midgar, c'est même dans les sites.
Ah ouais, c'est vrai.
Dans Sight, il y a le royaume d'Albion.
Oui, dans Sight, qui est un jeu de société.
Jeu de plateau.
Ah, peut-être l'Écosse plutôt, t'as raison.
Plutôt l'Écosse, ouais. Mais non, cool.
Tu jouais à quoi, toi, Florian ?
EverQuest.
Ça t'a ému un peu ?
Ouais, parce que ça m'a beaucoup ému.
Il
y
a un vrai truc, je sais pas toi, Sylvie, que t'as joué à des MMORPG, je crois pas. Pas trop ?
Pas trop.
Mais quand tu passes vraiment plusieurs soirées, alors moi je suis trop vieux maintenant, j'ai fait ça quand j'étais au lycée, hein. Mais quand tu passes tes soirées avec des potes sur des terres que tu parcours tout le temps, tu te marres, tu machin et tout, quand tu t'arrêtes 2-3 ans après, peut-être plus parfois, t'as un vrai, c'est un pincement de ouf. Et quand je revois des vidéos de Dark Age of Camelot, où je revois justement, j'en parle un peu, Foratla, tous ces trucs là, c'est qui sont des villes que j'ai parcourues virtuellement, c'est hyper émouvant, c'est un vrai truc. Je suis vraiment attaché à Midgar.
Surtout qu'au début, t'as un vrai sentiment de découverte, tu vois, t'as un sentiment de pouvoir tout construire, tu peux tout explorer. Et c'est vrai que quand un serveur ferme ou quand juste tu arrêtes parce que la vie fait en sorte que tu t'arrêtes au bout d'un moment, ça s'appelle genre.
Trouver un job.
Les enfants, tu vois, peu importe. C'est vrai que ça fait un truc.
C'est assez triste. J'espère que je ne vous ai pas rendu trop triste, mais je voulais faire ça.
Mais ça m'a donné envie de rejouer à des MMORPG, peut-être pas EverQuest, parce que je pense qu'EverQuest, maintenant,
ça n'existe plus. Si.
Je pense que
déjà, ils sont passés aux deux.
Oui, c'est certain, ça. mais en tout cas, ça m'a donné envie de rejouer à.
Mais je crois que les MMO sont moins à la mode, hein, pour être honnête. Je crois que World of Warcraft, ça a été l'apogée. Et aujourd'hui, avec, avec tous les Dota et les trucs comme ça, c'est fini. Les MOBA, pardon, c'est.
Je pense.
Les MOBA et les
Battle
Royale et tout, je crois que c'est terminé.
T'en as quand même qui fonctionnent encore. Je pense que Elder Scrolls Online, à mon avis, a un bon petit.
Alors que ça fait un bail quand même qui est sorti.
Pas tant que ça, il est sorti à Skyrim.
Il y a encore du monde sur WoW de ouf.
Mais
sur
WoW,
il y a peu de temps.
Ouf, ouais.
Et ça n'a rien à voir avec ma chronique, mais j'y pense là. C'est ouf comme le modèle économique. Avant, c'était un MMO. Tu payais 13€ par mois pour pouvoir y jouer. Et maintenant, c'est des jeux gratuits. Quand tu penses, le modèle a évolué de ouf.
Mais où tu payes des extensions, où tu payes pour la monnaie en.
Oui, non, bien sûr. Après, tu as des achats in-app. Mais,
et après, ils se déroulent dans l'espace maintenant pour la plupart.
Oui. Pas tous.
Pas tous, mais disons que c'est plus le cas aujourd'hui.
Ouais. Probablement.
Mais la plupart se tournent aussi vers la création de sociétés, de démocratie. Ils sont plus autour de
la Eve Online.
À la Eve Online, ce genre de choses. Ils sont plus autour de la communauté, justement, et la création de communautés.
Eve Online, ça se rapproche un peu de ce que je voulais faire dans la chronique, parce que sans y avoir jamais vraiment joué, c'est un MMORPG où les gens. Je pense qu'on explique pas ce que c'est, MMORPG que nos éditeurs connaissent.
Et un Meporg.
Un Meporg.
Et c'est vraiment. Eve Online, c'est un jeu où les joueurs ont une vraie influence sur l'univers et il y a des vrais systèmes politiques qui se mettent en place. En fait, il y a un jeu où il y a une méta, il y a une vraie méta dedans, un vrai méta.
Et comme dans le vrai monde, t'as une place pour les terres qui fait qu'elle a que pour miner.
Heureusement, il y a le ruissellement aussi qui fonctionne, évidemment. On a ubérisé Evenline. Et ça se rapproche un peu de ça, et je trouve ça assez cool de se dire que tu pourrais être bloqué dans un monde comme ça et y trouver une vie meilleure et oublier le monde initial. Et c'est drôle parce que le livre qui me sert
de Subok,
c'est le dieu venu du centaure de Philippe K. Dick qui parle un peu de ça. Mm-hmm. Et qui parle.
On ne parle pas assez de nos livres de Subok d'ailleurs.
C'est vrai.
Et j'aime bien la recommandation, un peu détournée. Tu vois.
Vous voyez, pour rappel, petit remember, souvenir, épisode 1 de Alien et les garçons. Attention, c'est parti.
Oui, ça faisait ça à l'époque. Ça faisait ça à l'époque. Ça, c'est du passé.
Ça, c'est du passé, mais ce sont nos verres qui tapaient sur la table. Et aujourd'hui, nos verres font ça. Oh merde.
Oh merde. J'en ai foutu sur
la carte son.
Oh putain.
Chers auditeurs, un incident rosé pamplemousse grave a eu lieu. C'est toi Peignocu qui essaye de faire du podcast ont dû sécher la carte son pour tenter de la faire fonctionner à nouveau. Excusez-nous pour la gêne occasionnée. Et maintenant, le retour des programmes normaux.
Désolé.
Sorry.
Bon, alors,
on a cassé la carte son, voilà. On l'a réparée, donc tout va bien.
Voilà.
petit accident direct.
Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, nos sous-box nous permettent effectivement d'atténuer les bruits de verre sur la table.
Et quand on ne les renverse pas.
Ça nous permet aussi de les renverser sur la carte son.
Et voilà. Justement, et du coup, on utilise à chaque fois des livres.
Des livres. Et donc maintenant, on va juste se dire, vu que tu en as profité pour donner ton livre, donc redis ton livre.
C'était Philippe K. Dick, que tout le monde connaît très bien, Le Dieu venu du centaure.
Très bien. Donc effectivement.
Toi, Vic.
Moi, mon livre, c'est Welbeck Platform.
Pour donc, tous les gens qui aiment coucher avec
des enfants thaïlandais.
Voilà. Évidemment, on sait que dans notre communauté, il y en a beaucoup.
Et le livre de Florian est. Et
tout à fait. Moi, c'est une histoire de tout ou presque dont on parlait au dernier épisode. C'est un livre de Bill Bryson.
Voilà.
Bill Bryson.
Voilà, qui est un livre de vulgarisation trop.
Et donc du coup, ça fait de toi exactement. Quelqu'un qui a obéi ou du moins qui a pris en compte une recommandation Alien et les garçons.
J'écoute
et ça,
souvent,
c'est cool.
J'écoute souvent les recommandations.
C'est peut-être
d'Alien
le seul, mais j'en suis heureux.
Et non, je pense qu'il y en a plein. Et voilà. Et voilà. Du coup, ça nous a un peu cassé dans notre élan. On a un peu tout pété. On a vraiment
on a
cru que c'était le
on
dernier épisode. Hein, je veux dire. Genre, on aurait été un peu les Grégory Le Marchal du podcast, quoi. Tu vois, un peu.
Petit ange du podcast.
C'est brûler les ailes en plein vol. Petit ange de parti trop tôt, quoi. Alors, voilà. Est-ce qu'on. Du coup, on s'est tout dit.
Je sais pas si on avait d'autres questions.
Je suis perdu. Alors, MMORPG.
Je voulais juste préciser un truc par rapport à la musique que j'ai mis à la toute fin. Parce que ça mange pas de pain et ça va me faire deux références.
Tu veux qu'on la réécoute pendant que t'en parles.
Pourquoi pas, on peut faire ça. Mais c'est qu'il y a une voix qui va parler dessus en même temps.
C'est pas grave, dis-nous.
Et du coup, cette chanson-là, c'est donc Blonde Redhead, qui est un groupe que j'adore, mais surtout pour les connoisseurs, évidemment, c'est la chanson qu'il y a dans la dernière épisode de la saison 4, je crois, de Rick and Morty.
Ah oui,
c'est sur ça.
C'est vrai,
j'ai toujours pas écouté. Mais c'est la saison 3, par contre.
Ah, peut-être, c'est possible, je sais plus.
Mais j'ai toujours pas regardé.
Ah bah, ça, c'est vrai. Ce passage est très triste aussi.
Ouais, c'est triste. Et du coup, elle s'y prête bien, cette chanson est ouf. Blonde Redhead, c'est ouf comme groupe. Et voilà, c'est encore une nouvelle reco. Et autre reco, ne renversez pas les verres sur les cartes son, c'est une connerie. Faites pas ça. Faites pas ça.
On se professionnalise peu à peu.
Ouais, mais tout doucement.
Okay. Baby steps.
Est-ce que je vous propose de. Est-ce qu'on fait vraiment les DJ? On fait passer de la chanson, de la musique aux gens et
Non, mais c'est ça. Je trouve que la transition se faisait pas mal. Peut-être qu'on peut lancer la.
Tu veux qu'on lance ton truc en même temps?
Allez, c'est parti.
Patrick et la recette magique.
Le lundi était un bon jour, selon Patrick. D'une part, parce que le lundi était le jour de promotion sur la mozzarella dans son supermarché. Et que Patrick se nourrissait essentiellement de mozzarella. D'autre part, parce que la grande majorité de la population détestait le lundi, jour le plus éloigné du week-end. De fait, chaque dimanche soir ou presque, une réaction chimique simple se déroule dans le cerveau de l'employé standard. Elle aboutit en une pensée pour le lendemain et le travail qui s'annonce. Cette pensée souvent provoque une suite de réactions nerveuses et musculaires, au cours desquelles successivement, les yeux se perdent dans le vague, les joues se gonflent, et la bouche expire de l'air dans un râle léger, parfois accompagné d'un « putain, demain, c'est déjà lundi ». Dans les pires des cas observés, cette pensée suscite également une remise en question de sa propre vie, de l'utilité du travail, du temps qui passe inexorablement, et parfois même de la mort. Non, décidément, le lundi était un jour noir à oublier dès le mardi. Naturellement, pour Patrick, la simple idée de voir disparaître tous les enfants dans leurs écoles, les étudiants dans leurs amphithéâtres, les bureaucrates dans leurs bureaux et les grands voyageurs dans leurs avions, créent chez lui une étincelle de satisfaction que l'on pouvait décemment qualifier d'antisocial, voire de misanthrope. Patrick n'avait ni ami, ni petit ami. Il n'avait pas de passion, il n'aimait rien de spécial, il était là, au milieu de tous, sans vraiment y vivre. Patrick était, selon Robert, un marginal. Dès sa naissance, au cours de laquelle sa mère était morte en couche, ainsi que par une coïncidence morbide mais remarquable, son père, la vie de Patrick avait été en marge. Son père était mort sur la route qu'il menait à l'hôpital. Oubli de priorité à droite, la naissance d'un enfant a toujours provoqué chez les sujets une euphorie à même de faire oublier ce genre de banalité routière. La mort de son père avait été indélicatement annoncée à sa mère alors qu'elle était encore en train d'accoucher, ce qui tua la pauvre femme sur place alors que Patrick était toujours dans son ventre. Non, décidément, ce n'était pas la meilleure façon d'entrer en scène pour son premier jour. Mais contre toute attente, le petit Patrick s'accrocha à la vie, et les réflexes héroïques de la sage-femme qui sectionna le ventre de sa mère d'un geste tremblant mais assuré lui sauvèrent la vie. Patrick était né. Il n'était ni beau, ni laid. Il ne pleurait pas, il n'a jamais pleuré depuis. D'ailleurs, il ne connut ni tristesse, ni joie. ni sentiments, ni émotions au cours de sa vie. Patrick était un homme qui côtoyait l'humanité depuis la bordure de la route sans vraiment avancer. Patrick était, selon ceux qui l'ont connu, qui ça déjà, je ne connais pas de Patrick. En grandissant à l'orphelinat, Patrick développa son inaptitude à faire partie des hommes. Il n'avait pas de camarades, ne suscitait rien chez ses professeurs, si ce n'est de l'indifférence, et dans les meilleurs jours, du dédain. Il n'avait jamais réellement parlé à une fille, il n'avait pas de sens de l'humour, ne connaissait d'ailleurs aucune blague sur Toto, ni de Monsieur et Madame Antinfis. Il n'attirait aucune sympathie ou empathie. Mais la vie avait quelques tours dans son sac. Elle avait à donner un don à Patrick. Un don qu'il était le seul au monde à posséder. Car si Patrick ne connaissait rien des hommes, il connaissait en revanche tout ce que ces derniers ne comprenaient pas. Il connaissait tous les mystères de l'univers. Les processus de fabrication des planètes, les raisons de la symétrie matière-antimatière, la composition de la matière noire, les premiers pas de la vie sur les planètes. Sans savoir réellement l'expliquer, Patrick connaissait les procédés chimiques pour faire disparaître un objet. Il savait aussi comment simplement atteindre la vitesse de la lumière, voire la dépasser. Il pouvait, s'il le désirait, griffonner sur une page de son carnet de correspondance les formules qui permettraient aux hommes d'arrêter la dégénérescence cellulaire et théoriquement d'atteindre la vie éternelle. Patrick comprenait l'infiniment petit et l'infiniment grand comme ses copains de classe comprenaient les règles du chat perché. Il n'était pas à proprement parler intelligent, mais il savait. Le jour de ses 20 ans, la rectrice de l'orphelinat lui offrit une place pour un spectacle de magie. En fait, l'orphelinat avait un partenariat avec la municipalité qui lui offrait des places chaque mois pour divers spectacles en échange de main-d'œuvre gratuite pour nettoyer les espaces verts, faire le ménage à la mairie ou encore satisfaire les membres du conseil municipal lorsqu'ils travaillaient tard le soir à la mairie. Patrick n'avait été envoyé qu'une seule fois le soir à la mairie quand il avait 11 ans. Mais son apathie avait pris le dessus sur l'excitation du conseiller municipal qui avait échoué à maintenir son érection face à cet enfant trop mou. Par la suite, il nettoya beaucoup d'espaces verts. Ce spectacle de magie avait fait prendre conscience à Patrick d'une chose qui changea sa vie. La magie était simplement ce que l'on n'expliquait pas. De fait, un magicien ne faisait que créer des conditions que ses spectateurs ne pouvaient pleinement appréhender. Qu'elles soient mathématiques, chimiques, technologiques ou spirituelles, la magie n'était rien d'autre que de l'inexpliqué. Par exemple, quand les conquistadors espagnols avaient débarqué au Mexique au XVIe siècle, leur technologie avait pour les Aztèques quelque chose de magique. Et au moment où ils avaient compris que ce n'était pas de la magie, mais simplement des tours de magie, il était un peu tard. Et si Hernán Cortés avait perdu une centaine de soldats, les Indiens étaient morts par milliers. Comme Patrick le découvrit ce jour-là, la magie est simplement ce que l'on ne comprend pas à un moment T. La religion est une sorte de magie. Imams, prêtres et autres rabbins en ayant toujours été de simples magiciens. Dieu est magique. Pour la plupart des hommes, l'amour est magique. Et de façon plus générale, les sentiments le sont. Pour Patrick, les relations sociales étaient magiques. Tout comme on pourrait penser que pour Valérie D'Amido, le bon goût est magique. Dans le cadre d'une religion, il est de notoriété publique que le magicien ne fait que répéter des tours immémoriaux qu'il ne comprend pas lui-même, mais qui marchent, sur certains. Dans le cadre plus intimiste d'un spectacle de magie, les spectateurs acceptent la magie sans prendre leurs jambes à leur cou car ils savent qu'il y a une astuce. Pour Patrick, pas besoin d'astuce. Connaissant ce que les hommes ne connaissaient pas, il serait magicien. Patrick mena sa carrière discrètement, mais sûrement. Et s'il était capable de faire disparaître des objets sur scène comme bon lui semblait, les spectateurs pensaient à des tours classiques. Patrick présenta pendant 19 ans son spectacle dans la petite salle crasseuse d'une ville dédiée entièrement aux jeux d'argent et aux divertissements comme le sexe ou la magie. Pendant ces années, la vie lui paraissait de plus en plus futile. Il n'eut de cesse que de développer ses expériences. Et à l'âge de 52 ans, Patrick décida de créer son propre monde. Il posa une semaine de RTT. C'est ainsi que, dès le jour suivant, dans le salon cuisine de son deux pièces, il attrapa un grand saladier, un peu crasseux. Il retroussa ses manches et il commença cette journée par créer de la lumière. Le lendemain, il créa le ciel, puis la terre qu'il déposa au fond du saladier. Au troisième jour, il créa la nature. Il connaissait le procédé depuis des années. Il lui suffisait de pas mal de carbone, d'hydrogène, d'un peu d'azote, de calcium et de quelques autres éléments facilement trouvables au supermarché en bas de chez lui. Le secret, c'était le soufre et l'eau. savant mélange, même si pour Patrick, guère plus compliqué que ces mozzarella au basilic. Le lendemain, il créa d'autres planètes pour aller avec son univers. Il aimait bien le jaune, alors il en fit une majorité de jaune. Quelques étoiles pour maintenir la solidité de l'ensemble, et le soir des saisons, très importantes les saisons, pour l'esthétique. Au cinquième jour, il créa quelques centaines d'espèces, en modifiant de l'ADN qu'il avait recueilli la semaine précédente dans sa salle de spectacle. L'avant-dernier jour, un samedi, Patrick eut une idée. Il allait créer une espèce de bipède suffisamment intelligente pour croire en elle et suffisamment vaniteuse pour trop croire en elle. Patrick était simplement curieux de constater où cela mènerait. Content de lui, ce soir-là, Patrick but 3 bouteilles de vin et une de vodka bas de gamme. Il se coucha tard. Le lendemain, il dormit toute la journée en bavant sur son canapé. Il ne se réveilla qu'à 21h pour prendre un doliprane devant une vidéo pornographique qui ne lui fit ni chaud ni froid. Puis il retourna se coucher. Le lendemain, il se leva, tout guilleré. C'était lundi, et le lundi était un bon jour, selon Patrick.
Pouf ! Enfin !
Patrick, c'est Dieu !
Triste portrait de Dieu. Hein.
Putain ! Moi, je l'ai préféré chez les dieux du karma de l'épisode 2, là, l'épisode 3, je sais plus.
Tu dis ça parce que c'était ton monde ?
Oui, absolument.
J'ai un ego sur ton monde.
Absolument.
Et alors, putain.
Plein de questions.
Oh, c'était dur.
C'était dur ? C'était dur pour
à
toi ?
À dire, je sais pas.
Ah bah non, non,
pour nous, mon téléphone, Rosé, tout ça.
Toi, ça a été dur de lire un podcast, imagine pour lui, ouais. Comme c'est dur de faire un monde en 7 jours, tu vois, un univers ouais. En 7 jours.
Alors moi j'ai pris des notes et c'est drôle parce que tu vois l'évolution du truc, genre au début je suis là, je me dis alors première question qui vient c'est donc ses parents sont morts avant sa naissance finalement. Je me dis donc mais qui a appelé
les deux.
Qui a appelé sans faire de référence à aucun autre podcast, qui a appelé Patrick. Vous voyez ce que je veux dire, qui a appelé Patrick. Donc c'est la première question. Ouais. Et ensuite, je dis mais Patrick, il est atteint d'autisme. Et après, je me dis, putain, il est un peu sociopathe. Et après, je dis, Patrick, c'est Dieu. Merde. Tu vois l'évolution de mes notes, genre, c'est merde. D'ailleurs, j'aurais pu dire, merde.
Putain, il y a un truc qui se passe mal dans les notes.
C'est ça.
Ouais,
pardon.
Ouais.
Excusez-moi. Donc, Dieu est donc un être médiocre en tout point.
Antisocial, apathique.
Et moi, ça m'a rappelé un film, je sais pas si c'est exprès ou pas.
Non.
C'est un de mes films préférés, c'est Mélancolia.
Non, je ne l'ai pas vu.
Et
Lars
von Trier.
L'autre, là.
Celui qui, à Cannes, une année sur deux, il parle soit de nazisme, soit des. Tu vois, bon, voilà. Et il y a un des personnages qui est joué par l'ex de Florian. Comment elle s'appelle déjà, ton ex ?
Ah, Kirsten Dunst.
Oui, voilà.
Et c'est vrai, j'avais oublié.
Et qui est un peu dans le même genre, sauf qu'elle n'est pas apathique. Enfin, elle est apathique, mais elle est dépressive, mais par contre, elle sait les choses. Elle connaît les choses de l'univers, elle sait ça, ça lui vient comme ça.
Ah, drôle.
Et du coup, ça ressemble à Patrick, même combat.
Ah,
même
combat. Peut-être, mais du coup, je le regarde. Voilà.
Et encore une reco, c'est un de mes films préférés, allez-y. Et si c'est moi qui le dis, vous pouvez me faire confiance.
Mélancolia, ouais, d'accord. Ouais. Bah,
ouais, c'est vraiment très bien.
Écoute, je vais regarder du coup.
Ça m'a vraiment rappelé ça.
Mais effectivement, non, mais j'aimais bien l'idée d'un mec un peu super loser, qui a eu une enfance de. Enfin, déjà une naissance de merde, une enfance
une
de merde,
merde.
Une vie de merde finalement.
Il a failli se faire violer à un moment donné d'ailleurs.
Oui, mais finalement, il est trop.
Oui, mais finalement, non.
Il est trop mou pour. Ouais.
Et ce mec, c'est Dieu.
Et finalement, ce mec, c'est notre Dieu. Ouais. Enfin, je trouve ça rigolo.
Et du coup, un autre truc que je me suis dit, Florian, je monopolise.
Oui, vas-y, t'inquiète.
Il a créé les êtres humains et la vie à partir d'ADN qu'il a trouvé dans une salle de spectacle. Donc,
dans une salle de spectacle d'une vieille ville crasseuse.
C'est genre Adam et Ève étaient donc des mecs. C'est ça qu'on se raconte.
Des crasseux fans de sexe et fans de Las Vegas.
C'est rigolo. Et c'est rigolo. Et ce qui est d'autant plus. Amusant, c'est que c'est certainement plus plausible que la plupart des trucs que nous racontent les monothéismes.
Mais écoute,
mais c'est ça qui est.
Je travaille sur la genèse en ce moment.
Et donc tu vas monter une secte. C'est ça que tu fais une secte, une religion, autant pour moi.
C'est la même chose.
C'est la même chose, c'est que les sectes, c'est juste que ça a raté. La religion, c'est que ça a réussi.
Ouais, exactement. Enfin, c'est en cours, quoi.
J'aime beaucoup l'idée. Encore une chronique qui mériterait de devenir un court-métrage ou un film ou une série.
Avec un mindfuck à la fin.
Ouais, super. J'aimerais dire plusieurs choses.
Mais bien, dis la première.
Tu vas nous éclairer un truc, vas-y.
Non, pas vraiment, c'est plutôt anecdotique. Première anecdote, c'est un peu les coulisses du podcast. Là où Thomas posait son verre sur un bouquin, maintenant il pose son verre sur son téléphone portable. Rien à branler,
bah,
le podcast avance, l'alcool aussi.
La littérature devant la technologie.
Exactement. Deuxième chose, j'adore ta façon de dire mozzarella.
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 Ouais, non, mais ça, mozzarella. J'ai quelques collègues italiens et je voulais leur faire hommage.
Je ne sais pas dire, moi, je n'ai pas l'accent italien. Mais
mozzarella.
Tu ralentis un peu tout.
Et non, la plupart des choses ont déjà été dites, à part le fait que quand tu racontes la recette miracle pour faire un univers, un monde, c'est tiré d'une recommandation que je vais faire d'un bouquin que je ne vous avais jamais parlé.
Qui est en fait, c'est tiré de la Bible, quoi.
Ah oui, parce qu'il en parle aussi dans Une histoire de tout ou presque, de Bill Bryson, un bouquin que vous ne connaissez certainement pas, que je vous conseille.
Mm-hmm. Attendez, j'ai pas compris la blague.
Ah oui,
quand
il parle des éléments chimiques.
Chimiques, l'univers, etc. La phrase est quasiment...
Ah, c'est l'autre substance, rapport au magus.
Exactement.
Ah, mais toi, tu disais que dans la Bible...
Non, dans la Bible, c'est juste au premier jour. J'ai suivi à peu près, pour la recette de Patrick, ce qu'a suivi le dieu des chrétiens
et des juifs,
dans la Bible,
et des musulmans,
et des juifs et des... oui exactement, dans la Bible en gros, okay. Enfin en termes de création de la terre.
Mais je savais pas qu'il y avait des tutos dans la Bible.
Non, c'est le premier, hein. Ouais. C'est vraiment le
la Bible,
c'est pas
YouTube,
le premier, mais c'est dans les premiers textes, quoi.
C'est dans le
c'est la création du monde, la Genèse, ouais, exactement.
Intéressant, bravo Dieu. Ouais.
Et effectivement, pour le coup, plus des éléments chimiques, ça, alors je me rappelle plus que c'était dans Bill Bryson.
Si, c'est quasiment, je crois que c'est l'introduction du livre. Je crois, parce que je dis, d'accord, que je l'ai lu il y a 2 heures.
Pour faire un peu créer la vie, en fait, ouais, ce qu'il faut, ça, ce qu'il nécessite. Ouais.
Il parlait des éléments qui constituent l'univers.
Pour cette partie-là, hein, puisque tu es dans les coulisses, j'ai fait un peu de Wikipédia, de voir un peu de quoi l'homme était constitué. Ouais. Du coup, j'ai mis un petit peu. J'ai pas tout mis, parce qu'il y a quand même quelques trucs.
C'est quoi, c'est de la flotte et du carbone?
Non, il y a pas mal de trucs, mais c'est à 0,3, 0,1, 0,2%.
Oui, il y avait même de l'arsénic, des trucs comme ça.
Oui, oui, t'as pas mal
c'est
de
intéressant.
Choses.
Très ouais. Intéressant. Je voulais vous dire autre chose. Ah oui, alors, on peut reparler des magus, alors.
Et du coup, super. Voilà, et les magus, c'était parce que dans ta chronique, Florian, t'étais sur les magus, donc qui était là sur l'inexpliqué, en fait, finalement. Partout où il y avait de l'inexpliqué, il y avait du magus, quelque part. Et du coup, je me disais que finalement, Patrick était juste un mec qui avait compris les magus.
Exactement, c'est juste un mec qui parle aux magus, en vrai.
Ouais, c'est ça. C'est juste ça.
C'est lui qui a inventé les magus. C'est le chef des magus.
Il ne l'a pas inventé, il les comprend juste. Il les voit, il les comprend.
Dans ma tête, les magus sont là depuis tout temps, tu vois, depuis la création de l'univers. C'est juste qu'effectivement...
C'est comme les mitochondries de Star Wars. C'est les mecs qui ne savent toujours pas le vrai nom du truc.
On va les appeler les Abercrombie.
Les Abercrombie de Star Wars.
Vous voulez que je cherche en direct, comme ça on n'est pas ridicule.
Vas-y, tape Star Wars épisode 1. Qu'est-ce qui fait la force?
Mais j'aime bien, en tout cas, l'idée de... comme tu disais dans ta chronique, comme j'en parlais dans ma chronique, du fait que ce qui est inexpliqué... On va lui poser des mots dessus pour justement tenter de l'expliquer, que ce soit la religion, que ce soit la science, la magie, ce genre de choses. J'aime bien l'idée, quoi.
C'est de l'inexpliquer, la magie. Enfin, c'est de l'inexpliquer. Ça peut, en tout cas, de l'inexpliquer, quoi.
Mais pour faire un lien avec l'avant-dernier épisode, je crois, l'Uchronie.
Épisode 4, l'Uchronie.
L'Uchronie, où tu parlais des mages iraniens.
Ouais. Alors, les mages perses. Zoroastriens.
Ouais. Zoroastriens. En fait, les mages ne connaissaient pas forcément la magie, en tout cas pas plus que nous, ils étaient juste
des scientifiques, quoi, des chercheurs, quoi.
Des chercheurs, quoi, qui cherchaient aussi bien la science, la physique, la chimie,
comme les sorcières du Moyen-Âge, qui étaient juste des guérisseuses, en fait.
Exactement.
Les magiciens étaient des scientifiques, exactement.
Et alors, donc le terme, c'est drôle, je vous dis, fun fact, quand j'ai tapé Star Wars Force, ça a marché, il y a d'autres gens qui l'ont cherché, il y avait des trucs qu'on me l'a recommandé, et donc c'est des midi-chloriens.
Midi-chloriens.
Midi-chlorien en anglais, parce que moi
midi-chlorien en français.
Probablement. Et Rocco, genre juste ce que on mélange un peu tout, mais ce que vous disiez à propos de ce que vous disiez,
passé.
L'espèce de truc, la substance qu'on avait avec un grand S qui est supposé refaire le monde, c'est un vrai. Donc là, on ne va pas faire une Rocco parce qu'on renvoie à toute la philosophie, mais c'est un vrai truc qui a travaillé tous les philosophes antiques et même. Classique, jusqu'au classique, ça s'est arrêté. Ah, il y a Vic qui a perdu son stérilet.
Continuons.
Tout va bien.
Et du coup, chacun y a vu son truc. Il y en a qui ont dit que la substance était le feu, il y en a qui ont dit que c'était l'eau, il y en a qui ont dit que c'était. Il y a plein de trucs et c'est vraiment intéressant. Et toi, ta substance, c'est donc les magus.
Tout à fait. Et pour Vic, c'est les midi-chloriens.
Exactement.
Et bah, bravo.
Et pour Patrick aussi.
Bravo Patrick, bravo Vic, bravo Florian. Est-ce que vous voulez qu'on conclue le podcast ou vous avez autre chose à ajouter?
Avant de conclure, j'aimerais bien retenter mon tour.
Alors attends, on va conclure et tu le tenteras dans la conclusion.
Virgule,
ok, je le tente dans la conclusion. On met une petite musique. Okay.
Et oui, vous ne rêvez pas, Vic va nous refaire un tour de magie. Non, je reformule, Vic va échouer à nouveau à nous refaire son tour de magie à la con.
Je suis pas d'accord.
Alors attention.
Attention, je reprends les dés.
On les jette. Alors, il n'y a que des 4 qui sortent. Non, 4, 4, 5,
alors, 5. Alors, tu as le choix entre des 4, des 5, des 2, des...
Et je ne peux pas prendre un 3.
Non, bah il n'y a pas de 3.
Mais je, ok, donc je prends un 2.
Tu prends quoi?
Le 2.
Tu prends le 2.
Ouais.
Est-ce que tu es sûr que tu prends le 2?
Oui, oui.
Hein?
Oui, 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 oui.
Non, mais le 2, c'est pas quand même quelque chose que j'aime bien.
C'est vrai? Ça t'arrange pas?
Hein?
Ça t'arrange pas en vrai?
Non, non, c'est pas forcément celui que je préfère, mais bon.
Tu préfères lequel, dis-moi?
Non, mais ok, ok.
Va, magie bas de gamme, tu préfères lequel, magicien?
Non, mais va pour le 2, va pour le 2. Je prends le 2. Tu prends le 2? Tu prends le 2?
Ouais.
Tu prends le... Attends, excuse-moi, je t'ai pas.
On n'aura jamais autant tapé dans la
tête. Tu prends le 2? Tu prends le 2? Ok, c'est parti, attention. C'est parti!
Donc là, Vic secoue. Oh, il y a que des 5 qui sont sortis, hein, mais c'est déjà de la magie.
C'est déjà mieux, c'est déjà mieux. De quoi? C'est des 2.
Ah, il a réussi.
Oh, réussi. Oh, bravo. C'est que des 2 dans
c'est,
la boîte.
Ah, c'est de la magie approximative.
Alors, c'est de la magie approximative, mais je vous invite, auditeurs, auditrices, à aller voir Tenyomagic. Tenyomagic, oui. T-E-N-Y-O. Tenyomagic, petite boîte japonaise de magie qui est vraiment digne de Poudlard, car ce n'est pas des tours de magie, mais c'est vraiment de la vraie magie. Elle va vous transformer en vrai magicien. Moi aussi, ça a mis le temps d'un épisode, mais aujourd'hui, je le suis.
Ouais,
c'est
quoi?
C'est des
deux, bravo. Il n'y a que des deux. Expliquons aux auditeurs s'ils n'ont rien compris à ce qui s'est
non,
passé.
Non, ils ont compris. Ils ont écouté l'introduction.
T'es sûr?
C'est très impressionnant.
Ils ont compris.
Ce tour-là s'appelle Flash Dice. Il y a des vidéos sur YouTube. Mais allez voir tous les autres tours de Tenyomagic. Ils sont tous très impressionnants. T-E-N-Y-O Magic.
Est-ce que c'est toi le Tenyomagic? Parce que t'arrêtes pas, tu l'as dit au moins 5 fois.
D'abord, pourquoi ça coupe?
Ça saute. Oh boy.
Attends, touche rien.
C'est revenu.
C'est revenu.
Alors,
c'est
sûr, c'est je crois qu'on a des petits problèmes de carte son depuis le début, là, depuis tout à l'heure. Florian, est-ce que tu veux bien conclure?
Ouais, moi je vais passer très vite sur la conclusion, parce qu'on sait tous ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, on a un Facebook, c'est pour suivre notre actu,
oui.
Il faut liker. Aujourd'hui, on est sur iTunes, 5 étoiles, pas une de moins, comme d'hab. On est aussi sur Spotify, on l'a dit au tout début, je sais pas si on l'a dit, mais on est sur Spotify, c'est la grande nouveauté de cet épisode. Non, aujourd'hui, je vais plutôt... vous proposer un petit jeu.
Ouais.
Wouhou. J'adore les jeux.
On a parlé magie en long, en large. Je vais vous faire un petit quiz. Un quiz
de magie.
Ouais, un quiz de magie.
Est-ce qu'il y a un tour de
magie? C'est un quiz rigolo. C'est un quiz à la burger quiz.
Ah.
J'aime bien dire quiz.
Vas-y, moi, ma maman dit quiz.
C'est vrai?
Ouais, elle dit quiz.
Elle
dit,
est belge?
Non, elle est bressane.
Ah,
ok.
le principe est simple. J'ai inventé des formules magiques et c'est à vous de me dire quels effets ou quel effet aurait cette formule magique.
Ok.
Par exemple, si je vous dis levitatum penisseo,
bah ça fait érection. Ça fait léviter.
Exactement. Les
érections. Ah non, je crois que c'était les érections.
Non, c'est levitatum penisseo.
Ah, penisseo, c'est une start-up pour.
Non, ouais, c'est ça, c'est le pénis. Donc ça redonne la vigueur à un certain membre chez l'homme.
Très bien.
On a tous compris lequel. Celui qui a le moins de points doit faire un massage avec de l'huile de massage à l'autre.
Avec sa bouche.
Juste sur ton truc, excuse-moi, je te recoupe, c'est vraiment pour niquer ta conclusion, mais ça, ton penisatum levitéo, ça me fait penser à testis nullus, testis unus, testis nullus.
Qui veut dire une seule couille, pas de couille.
On va pas bien loin avec une seule couille, mais vas-y, continue, je t'en prie.
Merci beaucoup. Donc du coup,
merci Pierre.
C'est toujours pareil, les fans. On boit trop, oui, et c'est carnaval.
Non, mais on va s'améliorer.
Florian, on t'écoute.
Donc du coup, j'ai en face de moi deux équipes. L'équipe Thomas, qui sera l'équipe
Team Rocket.
Pampan.
Team Rocket. Non, Team Rocket.
Non, équipe Pampan. Okay. Et l'équipe de Vic, qui sera l'équipe Cucu.
Pampan Cucu.
Exactement.
C'est bien. C'est
rigolo. Pour donner votre réponse.
Il y a de la culture là-dedans.
Pour donner votre réponse, vous devrez dire Pampan ou Cucu.
Attends, okay. Je pense qu'on va saturer.
Vic, peux-tu me dire Cucu?
Cucu.
Ok, c'est bon. Et toi?
Team Rocket.
Non, Pampan. S'il dit ça, il perd.
Mais oui, bien sûr.
Ouais, okay.
Alors, du coup, le premier, il est simple, je crois. C'est Aquae Vodkalum.
Pampan.
Cucu. Ah, c'est Pampan en premier.
Eh ben, remplace de l'eau en vodka. Transforme ton eau en vodka.
Exactement, bravo.
Mais je le fais souvent. Ce
il faudrait mettre des sound design de...
Ouais. Attends, fais-le sinon.
Le deuxième, ouais, je pourrais le faire. Le deuxième, il est un peu plus dur. C'est Macronus Perlin Pimpinium Veritium.
Pampan cucu.
Qui a dit cucu deux fois?
J'ai dit les deux.
Je crois que c'est encore Pampan qui a dit en premier. Hein.
Non, ouais. Je suis pas d'accord. Je voudrais réécouter au ralenti.
Attention,
on le fait au ralenti.
C'est toi qui l'as dit.
Okay,
alors, c'est un tour de magie qui permet à Emmanuel Macron de dire la vérité?
Non, c'est pour le ruissellement.
c'est ça? À Pampan, pour voir?
Et bah pour moi, c'était un tour de magie pour faire ruisseler l'argent des plus riches sur les plus pauvres.
C'est pas bête. Moi, j'avais plutôt imaginé que c'était un sort de confusion mentale qui passe à travers la télévision.
Ah, it's getting political, motherfuckers.
It's getting political, motherfuckers.
Poursuivre, parce qu'on a beaucoup d'électeurs d'auditeurs en marche, pardon.
De Startupers.
Ouais.
Je vais donner le point à l'équipe.
Il va falloir faire le tri.
Ouais, c'est clair.
Je vais donner le point à l'équipe QQ pour cette fois-ci.
Ah, super. Ça fait 1-1.
Le troisième et l'avant-dernier, ce sera Vinum Bella Ratajkowskia.
Ah, ça veut dire Pampan. Ça te permet de faire apparaître Émilie Ratajkowskia.
C'est pas loin, j'accepte la réponse. La réponse, c'était un sort qui supprime instantanément. Non, un sort qui te rend beau, mais uniquement si l'autre est bourré.
Ah, ça n'a rien à voir.
Ah oui, si, c'est pas long.
Je vois pas pourquoi tu acceptes la réponse.
Tu es d'une tolérance incroyable.
Oui, parce qu'il faut aller vite, ça fait chier.
Ouais, okay. Très bien, non, c'est vrai. Les gens s'ennuient, ils veulent partir.
Le dernier, c'est Appium Anniversa Tomatum.
Ah.
Cucu ! Bon anniversaire, Thomas !
Merci beaucoup, les auditeurs comprennent pas ce qui se passe.
C'est aujourd'hui l'anniversaire de notre chroniqueur préféré, notre host préféré, et Thomas !
Merci à tous,
bravo. On applaudit.
Et oui.
Alors, c'est ton anniversaire.
C'est vrai, c'est mon anniversaire.
Tu es aujourd'hui.
Je
te propose de trinquer.
Ah bon, voilà. Si, on va trinquer.
Et moi, je suis très loin, mais.
Allez.
On n'en renverse pas sur la carte.
On se calme.
Et pour ton anniversaire, nous t'offrons cet épisode 6, Thomas. Bravo.
Ça me fait plaisir. Et pour expliquer aux auditeurs qui doivent se demander ce qui se passe, c'est vraiment mon anniversaire le jour où on enregistre.
Ouais. C'est pour ça qu'on avait vu avant, enfin, ça ne nous a pas empêché avant.
Et voilà, et donc du coup, ça finit en beauté. Et si vous voulez me faire un beau cadeau, parlez d'aller nos les garçons à vos amis, à vos familles, et aussi
surtout
à vos
amis influenceurs, à vos amis qui ont des
comptes Instagram avec beaucoup de
followers.
Avec de followers.
Oui, parce que si vos amis, c'est vos parents et qui pissent sur Internet, on s'en bat les couilles.
Si vous êtes Patrick,
clairement, vos parents, on s'en bat les couilles. Ne parlez pas de vos parents, on s'en fout, les gars.
Attention, tour de magie.
Non, c'est le moment où on s'en va.
Hop là
en plus, t'as encore échoué, putain.
J'ai échoué parce que j'ai même pas regardé avant.
Très bien. Bon, les amis, on se retrouve la semaine prochaine avec le thème proposé par notre auditrice.
Dans deux semaines,
avec un thème proposé par une auditrice qui est...
La supériorité du minéral.
Et en attendant, on vous fait de gros bisous et Vic nous envoie une petite chanson.
Allez, les amis.
Bisous les copains.
Bisous.
Ciao,
les petits copains.
Bye.
Ciao.